nom de la chaire de philosophie du langage et de la connaissance d'être venu ce matin pour la première des deux journées de ce colloque sur Karl Bühler. Et je voudrais remercier notamment les intervenants venus de loin, venus d'Italie et de Suisse. Il y a 2 ans et demi, je reçois sur mon bureau un dossier un peu étonnant, par lequel je découvre qu'il y avait une philosophe et un linguiste qui envisageaient d'éditer en français la Sprachtheorie de Bühler, et qui avait déjà fait le travail, la traduction était prête. J'avoue que j'ai fait un peu un bond de 50 cm sur ma chaise en découvrant cela. J'ai décroché mon téléphone pour appeler Thierry Lissépolo, qui est le directeur des éditions Agone. Nous nous sommes parlé 5 minutes, je lui ai expliqué en quelques mots, évidemment il ne connaissait pas Bühler, je lui ai expliqué en quelques mots de quoi il s'agissait, quel était l'enjeu, quelle était l'importance de cet auteur, l'importance de ce livre, et nous avons décidé, dans la collection Banc d'essai, de le publier. Évidemment, ça supposait de faire tout un travail de demande de subvention. Pour un petit éditeur, c'est évidemment une affaire un petit peu coûteuse. Nous avons trouvé du soutien du côté du CNL, du côté du Goethe-Institut, du côté de la région Provence-Côte d'Azur, du côté également d'un fonds universitaire suisse, si bien que cette entreprise a été possible. Il a encore fallu 2 ans de travail, de réunions, de réflexions pour mettre au point, finaliser, comme on dit aujourd'hui, le glossaire, les notes, l'index, peaufiner la présentation, etc., etc. Si bien qu'aujourd'hui, on dispose de ce livre, que je suis assez fier, je dois dire, de montrer, avec une traduction, d'une très belle qualité et un appareil critique qui en fait une édition scientifique de solide. Alors, si je raconte cette histoire, c'est pas pour le plaisir de l'anecdote ou pour le plaisir de bons souvenirs, encore que ce sont de bons souvenirs, parce que toute cette période de collaboration avec Jeannette Friedrich et Didier Samin a été pour moi une période très, très heureuse, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux pour aboutir à ce livre. Mais parce que je crois que derrière cela, il y a un véritable enjeu qui est celui des relations entre la recherche en sciences humaines aujourd'hui et l'édition. En effet, je crois que les problèmes de la recherche aujourd'hui ne sont pas seulement ceux qui sont largement débattus sujet de mobilisation, comme celle du statut des chercheurs, de l'organisation institutionnelle de la recherche. Je crois aussi qu'une des questions majeures aujourd'hui, c'est celle de l'édition. Et que le problème de l'autonomie du monde de la science, de la recherche, de la culture, de la pensée, se pose non seulement par rapport aux forces de l'argent, de manière générale, mais aussi par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'industrie médiatique et culturelle. Et cette autonomie de la recherche, elle passe, me semble-t-il, par l'existence d'un secteur d'édition indépendant qui non seulement ne soit pas exclusivement soumis à des exigences de rentabilité, mais qui puisse aussi assumer des projets ambitieux, originaux, de longue haleine, du type de celui-ci, mais il y en a d'autres. Et je crois qu'il n'y a pas de chance de maintien d'une pensée, d'une recherche indépendante et audacieuse dans notre pays s'il ne se crée pas des liens forts, stables, entre les chercheurs et les créateurs d'une part, et les secteurs de l'édition qui sont les plus indépendants et les plus irrécupérables par le monde de la finance et par le monde des médias. Alors, une fois ce livre publié, bien sûr, ce colloque s'imposait. Il s'agit évidemment de mettre ou de remettre la pensée de Bühler à la place qu'elle mérite dans le débat philosophique, linguistique, psychologique en France. Cette préoccupation était évidemment celle de Jacques Bouvresse, qui a préfacé cette édition de l'ouvrage. Elle a été aussi immédiatement celle du laboratoire d'études des théories linguistiques et de sa directrice Sylvie Archimbault, et je me réjouis que nous ayons pu collaborer ensemble et organiser ensemble, préparer ensemble ce colloque, et je lui passe la parole.
Je vous remercie. Je voudrais, moi, à mon tour, vous remercier très vivement, remercier la chaire de philosophie du langage et de la connaissance du Collège de France pour cette opportunité de collaboration qui s'est jusqu'alors extrêmement bien passée, et nul doute que les choses continueront ainsi. Moi, je partage tout à fait le diagnostic que vous venez de faire concernant les liens entre la recherche en sciences humaines et l'édition. Et de ce point de vue, je voudrais saluer aussi le courage des éditions Agone qui ont choisi de publier cette traduction, parce qu'aujourd'hui, les publications de traduction en sciences humaines sont extrêmement rares, et de grands éditeurs, enfin, ou des éditeurs, disons, comme CNRS Éditions, dont on peut penser qu'ils verraient dans leur mission qu'il est important de diffuser des textes en français qui ont été écrits en langue étrangère, se refusent à le faire parce qu'ils pensent que financièrement, ça n'est pas rentable. Donc là, je crois qu'il y a vraiment le courage d'un éditeur à saluer. Et nous, en ce qui nous concerne, donc Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques, nous avons, Didier Samin a présenté donc le projet de cette traduction de Karl Bühler il y a un certain nombre d'années déjà, et nous avons tout de suite pensé que c'était extrêmement important que de l'accompagner, alors certainement très imparfaitement, dans cette tâche qui a été très longue. Il a pu bénéficier d'une délégation au CNRS pendant 2 ans pour se consacrer à ce travail, mais l'importance du volume montre qu'il y avait un travail qui excédait bien évidemment cette durée. Et ce qui est très important évidemment aussi, c'est tout l'apparat critique, l'édition critique donc, qui a été faite par Jeannette Friedrich et Didier Samin. Une journée avait déjà été organisée par Jeannette Friedrich et Didier Samin en février 2003. Donc, au moment où la traduction était en cours, hein, à son début, disons, et elle permettait, cette journée avait permis de poser vraiment les enjeux qu'il y avait à approfondir cette connaissance de Bühler pour un public francophone notamment. Et là, pour nous, c'est un petit peu une étape, ce n'est pas un chapitre qui se clôt, je ne pense pas, c'est une étape extrêmement importante qui est franchie. Ce texte, maintenant, grâce à votre travail, est donné à la connaissance d'un public francophone. Pour des historiens de la linguistique, évidemment, c'est très... disons, c'est un thème de travail en soi. Comment ce texte qui est livré à la connaissance d'un public avec un décalage de 80 ans se retrouve donc d'emblée un texte d'histoire de la linguistique, hein, sans avoir eu la possibilité de faire germer, disons, les idées qu'il aurait pu faire germer en son temps si la traduction avait été faite lors de sa parution ou peu après. Alors, ce que l'on peut se dire pour se consoler, c'est que la traduction n'aurait pas été celle-ci, bien sûr, et elle aurait certainement été beaucoup moins bonne, parce que là, il faut saluer aussi la qualité du travail de traduction, comme vous l'avez fait. C'est là aussi, je pense, un événement. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, le terrain maintenant est prêt pour... disons, reconsidérer l'œuvre de Bühler et les enjeux dans le développement des sciences humaines au début du XXe siècle que cette œuvre représente.
Bien, ben nous allons commencer sans plus tarder. Donc, c'est Didier qui préside cette matinée et Jeannette qui prend la parole.
Thank you. Bien, il m'arrive un petit problème, je n'ai pas mes lunettes dans mon sac.
C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi.
Bien, donc, sans lunettes, je ne peux rien lire.
Ouais. Ça fait rien, ça commence.
Bon, donc, je suis désolé, j'ai à peu près en tête le sujet de Jeannette. Mes lunettes ont dû rester à l'étage. Je vous prie infiniment de m'en excuser. Je passe donc tout de suite la parole à Jeannette Friedrich de l'Université de Genève. Jeannette, c'est à toi.
Merci beaucoup. Ça va? Oui. Je suis très contente de pouvoir ouvrir le débat aujourd'hui autour du livre de Karl Bühler intitulé « La théorie du langage » que Didier Samant et moi-même venons de publier chez Agone. Nous aimerons profiter de cette occasion et exprimer tout d'abord nos remerciements. Nous aimerons remercier le directeur de la collection Banque d'essai, Jacques Rossa, dans laquelle le livre est paru, Jean-Jacques Rossa, remercié pour son travail sur le texte, pour les discussions que nous avons eues sur la traduction et sur l'appareil critique. Nous voudrions remercier les collaborateurs de la maison d'édition Agone qui ont pris le risque de publier un tel livre et avec lesquels la collaboration a été de la première journée que facile et agréable et orientée par une seule chose, la qualité du livre. Et nous aimerions remercier Jacques Bouvresse pour deux choses. D'une part, pour son soutien à ce projet de parution, qui, comme vous l'avez dit dans la préface, a été éminemment improbable et à bien des égards inespéré. Et d'autre part, pour nous avoir ouvert les portes du Collège de France pour ce colloque dédié à la parution néanmoins devenue possible de la Sprachtheorie. Dans mon exposé, j'aimerais revenir sur deux, trois idées qui font partie de ma présentation du livre et que je vais reprendre pour les développer d'un point de vue un peu différent, afin de les soumettre de nouveau au débat. Les réflexions qui suivent tentent de montrer l'actualité de Karl Bühler et ils vont tourner autour de concepts de représentation, d'Arstellung, concept clé de la Sprachtheorie qui porte justement le sous-titre la fonction représentationnelle du langage. Je propose de prendre au sérieux ce sous-titre, car il parle de fait que dans ce livre, il est question avant tout de la représentation. Cette affirmation semble redondante, mais j'insiste, elle veut l'être, car le terme de représentation n'a pas une très bonne réputation dans la linguistique, mais aussi dans la philosophie du XXe siècle. Un thème omniprésent dans ces deux domaines depuis le milieu du XXe siècle est la remise en cause d'une conception de langage qui le traite comme représentation d'état de choses, représentation qui peut être jugée vraie ou fausse en fonction de sa correspondance ou non avec la réalité. Cette critique d'une correspondance entre les expressions linguistiques d'un côté et les choses et les concepts de l'autre a été le point de départ de nombreuses théories en linguistique. Elle a également été conduite à l'intérieur de la philosophie. Pourtant, Bühler réserve une place centrale à ces concepts et les stratégies adoptées dans la réception de la Sprachtheorie pour contourner le problème que cela pourrait poser me semblent peu intéressantes. La thèse qui sera développée dans cet exposé est la suivante. Je vais essayer de montrer que Bühler met en lumière, à travers le concept de représentation, un lien bien spécifique que le locuteur et l'auditeur tissent avec le monde dès qu'ils utilisent le langage. Un lien qui est le résultat de cette force représentationnelle du langage dont parle le titre de mon exposé. De quel lien s'agit-il et en quoi consiste sa particularité? À cette question, je vais répondre tout d'abord par un retour aux premiers écrits de Bühler qui portent sur la psychologie de la pensée, et dans lesquels il développe une critique d'une théorie représentationnaliste de la pensée. Je suis bien consciente de la difficulté terminologique que cette discussion peut poser en français, car les deux termes qui se trouvent distingués dans la langue allemande, à savoir « Vorstellung » et « Darstellung », vont être reproduits par le seul mot français existant pour le faire, le mot de « représentation ». Les connaisseurs savent que la langue allemande fait une distinction entre Vorstellung, représentation en tant qu'image mentale, et Darstellung, représentation du monde par des signes de tout genre. une distinction que le français ne permet pas de reproduire. Dans ma discussion de la psychologie de la pensée de Buhler, je vais signaler cette distinction aux endroits où ce défaut de la langue française pourrait poser un problème pour la compréhension. Sinon, je me fie à la démonstration au sens de laquelle le terme prendra, dans la majorité des cas, toute seule la signification voulue. Je viens à mon premier point, la critique d'une théorie représentationnaliste de la pensée où la pensée doit être autre chose qu'une représentation, une Vorstellung. C'est entre 1906 et 1909 que Buhler travaille à Würzburg chez Oswald Kulpe et écrit son habilitation intitulée « Faits et problèmes pour une psychologie des processus de la pensée ». Une habilitation qui se base sur des recherches empiriques réalisées à l'aide de l'introspection contrôlée et ayant comme objectif une confirmation expérimentale des thèses que Husserl développe dans les recherches logiques. Tout au début de son habilitation, Buhler écrit que Husserl aurait instauré une méthode transcendantale déterminant le fonctionnement et le contenu des lois logiques et qu'il aurait posé en même temps la question de savoir ce qu'on pourrait en déduire à propos des phénomènes psychiques. Cette question oblige, selon Buhler, à réviser fondamentalement notre conception du psychique et à renoncer à l'idée de non-correspondance entre les lois logiques et les lois psychologiques de la pensée. Au premier abord, ce test de Buhler semble étrange, car elle inverse la manière habituelle de réagir aux reproches de psychologisme qui règne à l'époque dans les débats germanophones autour de la psychologie de la pensée. Au lieu d'accepter la critique des philosophes comme Frege et Husserl, qui visent néanmoins une démarcation forte entre les lois de la pensée considérées comme des objets idéals et les lois de fonctionnement empirique de la pensée, Buhler propose de rechercher leur correspondance et insiste sur la participation des psychologues au débat. Mais il faut le bien comprendre. Ce n'est pas le fonctionnement empirique de la pensée qui fait l'objet des analyses de Buhler, mais comme il le dit lui-même, les constituants des vécus de la pensée. Avant que je tente d'expliciter ce terme des constituants des vécus de la pensée, j'aimerais brièvement rapporter les résultats de ses recherches qu'il discute sur les 150 pages de son habilitation. Dans les manuels sur l'histoire de la psychologie, les résultats obtenus par lui et les autres collaborateurs de Kulpe sont souvent rapportés de manière abrégée sous forme d'un slogan. L'école de Würzburg a démontré qu'il existe une pensée sans image, sans représentation. Il est vrai, les procès-verbaux le montrent que lorsque les sujets parlent de leur vécu de la pensée, ils ne savent souvent plus si une représentation a été présente, tandis que ceux qui sont pensés, ils sont pu le déterminer avec assurance. La conclusion de Buhler est claire et ne laisse aucun doute. Ce qui, dans le processus de pensée, apparaît à la conscience de manière aussi lacunaire, aussi sporadique, aussi hasardeuse que les représentations, ne peut pas constituer la base de son contenu. Je cite, c'est la citation 1, « Si le quoi de ma pensée peut être déterminé pour moi avant que je dispose des représentations mentales, susceptibles par ailleurs de déterminer ce quoi, alors la pensée doit en tout état de cause être autre chose que ses représentations. Avund, qui objectait que pour pouvoir penser à quelque chose, par exemple à une locomotive, je dois soit produire une représentation d'elle, soit utiliser un mot. Buhler rétorque que chaque chose peut être pensée en tant que quelque chose de déterminé sans la médiation d'une image ou d'un autre auxiliaire. On peut penser le concept d'un triangle ou d'un homme sans avoir besoin d'une seule image, d'une seule représentation. Et Buhler poursuit, je peux même penser d'une manière entièrement déterminée et sans image cette nuance spéciale de bleu d'un tableau qui est pendu dans ma chambre, pourvu seulement qu'il soit possible que cet objet me soit donné d'une autre manière que par les sensations. En refusant une théorie représentationnaliste de la pensée, Buhler ne nie néanmoins pas qu'il existe un lien entre la pensée et le monde, mais il récuse l'idée que ce lien serait médiatisé par une image mentale, par la représentation de la chose. Ainsi, il défend une position proche de celle que Kevin Mulligan rapporte au sujet de Husserl et de Wittgenstein dans son introduction à la philosophie autrichienne. Je cite, Husserl et Wittgenstein aiment souligner qu'une idée ou pensée est un rapport direct avec son objet et n'a pas besoin d'objet intermédiaire. entre la pensée et son objet, insistent Husserl et Wittgenstein, n'intervient aucune ombre de l'objet. C'est dans ce contexte philosophique que l'interprétation des recherches expérimentales de Bühler sur la pensée prend tout leur sens. Mais la question reste, qu'est-ce que le quoi de la pensée si ce n'est pas une représentation? Qu'est-ce qui reste si le contenu de la pensée doit être circonscrit indépendamment de la représentation? Bref, qu'est-ce que la pensée? Trois choses sont caractéristiques de la pensée, répond Bühler en 1907. La conscience de la règle, la conscience du rapport et les intentions. Je n'ai pas le temps de détailler ces trois constituants des vécus de la pensée, comme Bühler les dessine. Je vais me limiter à une brève discussion de la conscience de la règle. À partir de ce que les sujets des expérimentations rapportent dans les procès-verbaux, Bühler caractérise la conscience de la règle comme la prise de conscience d'une méthode qui permet de résoudre une tâche. Il la caractérise comme un savoir de la manière dont on aboutit, en général, à la résolution d'un type de tâche déterminée. C'est une pensée dans laquelle quelque chose que nous dessinons du point de vue logique comme une règle vient à la conscience. Mais cette définition est insuffisante et notamment l'expression « vient à la conscience » demande une précision. Comme le dit Bühler, je peux aussi simplement viser une règle. Et cette pensée a une règle, ou autrement dit en français, la pensée à propos d'une règle, n'est néanmoins pas à identifier avec la conscience de la règle. Je cite Bühler, c'est le 5. L'objet de la conscience de la règle n'est pas la règle elle-même, mais le fait, l'objectivité qu'elle dessine, à laquelle on peut l'appliquer, dont on peut parfois l'inférer. C'est pour cette raison qu'il distingue soigneusement entre la pensée à une règle, denken an eine Regel, et la pensée de la règle ou dans la règle, denken einer Regel oder in einer Regel. Tandis que la pensée à une règle fait référence à une règle sous forme d'un concept, d'une abstraction, d'un produit de la réflexion, la pensée d'une règle se réfère au monde des objets et des faits qui est pensé dans la règle. Cette conscience de la règle existe sous la forme d'une conscience de ce qui est général dans les différents cas. Pourtant, pour connaître ce qui est général, le sujet ne l'a pas isolé ni abstrait dans les cas précédents. La règle est pensée en confrontation avec de nouveaux cas sans qu'une généralisation précédente ait eu lieu, sans que le sujet fasse référence à une règle. Dans ce sens, Bühler parle d'une pensée de la règle même, sie selbst denken, qui n'est pas à confondre avec une pensée à la règle. À titre d'exemple, pour la conscience de la règle, Bühler cite les qualités de la gestalt, un phénomène fortement discuté durant cette période. Voici ce que Bühler développe à cet égard. En regardant les lignes d'une figure mathématique compliquée, je ne sais pas quoi faire au début avec ces lignes. Et puis, d'un coup, je le sais, je le saisis. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai saisi, demande Bühler. Apparemment, le sens de la figure. Et il poursuit. Ce sens est en tout cas quelque chose d'idéal. Dans beaucoup de cas, rien d'autre que sa loi, même si cette loi n'est pas sa loi exacte, complète et précise, mais une règle brute de la constitution de la figure. Grâce à cette conscience de la règle, l'image perceptive qu'on a de la figure est pénétrée par une lumière. C'est la raison pour laquelle on dira à propos de ce qui se passe qu'il me vient une lueur. Ou, comme on pourrait dire, moins métaphoriquement en français, je commence à y voir clair. Bühler nous rappelle que quelque chose de semblable se passe quand je comprends, d'un coup, la construction d'une machine ou le plan d'un bâtiment. Mais le verbe « comprendre » est dans le texte mis entre guillemets. Car cette compréhension se fait justement sur le plan perceptif. Je commence à y voir clair. Cette métaphore visuelle souligne le fait que la conscience de la règle, étant constitutive pour la qualité de la gestalt, comme aussi pour la compréhension de la machine, n'est pas à confondre avec une connaissance de la règle qui pourrait être exprimée, explicitée, formulée par le sujet. Ryle dirait, il ne s'agit pas d'un savoir que. Cette règle n'existe pas sous la forme d'une connaissance. Elle n'est pas le produit d'une réflexion, Et pourtant, elle est présente, d'où la capacité de l'individu de percevoir la gestalt. Bühler s'empresse dans son habitation de rapporter d'autres exemples. Les règles grammaticales existent également sous la forme d'une conscience de la règle. Lorsque nous sommes en train de formuler une phrase, nous nous rendons compte que les règles grammaticales demandent que nous utilisions à cet endroit de la phrase une préposition, sans laquelle la phrase ne peut pas être terminée de manière correcte. Je cite Bühler, et c'est une citation longue qui se trouve sur le point 6. Lorsque nous pénétrons une construction phrastique compliquée, il s'agit d'un savoir à propos de sa structure grammaticale. Nous savons quelque chose des relations qui existent entre les parties séparées de la forme totale. Cela se produit aussi lorsque nous parlons nous-mêmes, par exemple lorsque nous débutons une incise par quand, et qu'à la fin de la subordonnée, nous nous interrompons brusquement, nous prenons alors conscience que nous avons attendu quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'un complément matériel, mais aussi d'un complément grammatical. Nous attendons une proposition principale. Dans tous ces cas, nous prenons conscience, sous forme séparée, de ce qui, incidemment et sans qu'on y prête spécialement attention, sert toujours et presque toujours d'intermédiaire entre les pensées et les mots, en l'occurrence un savoir quant à la forme phrastique et quant à la relation des constituants phrastiques entre eux. Quelque chose qu'il faut considérer comme une expression directe des règles grammaticales qui sont vivantes en nous. Bühler affirme dans l'interprétation de ses recherches sur la pensée l'existence d'une conscience de la règle qui n'existe néanmoins pas en tant qu'état mental et elle n'est pas à confondre avec un produit de la réflexion. Cette conscience de la règle est exclusivement présente dans le processus de la perception ou de la parole. Sans elle, les qualités de la gestalt comme phénomène perceptif et encore notre capacité d'engendrer un nombre infini de phrases ne pourraient pas être attestées ni expliquées. Mais c'est exclusivement dans la gestalt comme phénomène perceptif, dans la production d'une phrase grammaticalement structurée, que cette conscience est existante. Autrement dit, c'est dans l'objectivité que la conscience de la règle indique, fait voir que le lieu de la pensée est à rechercher, ce qui met l'idée d'un lieu même en question. Cela explique aussi pourquoi Bühler accorde à la conscience de la règle un statut d'expérience vécue. Il parle des règles, grammaticales ou autres, qui sont vivantes en nous. Il les identifie à des faits phénoménologiques, puisque leur seule forme d'existence est leur expression directe dans la perception de la gestalt, dans l'énonciation d'une phrase et dans d'autres phénomènes. Dans la sprachtheorie, Bühler décrit un phénomène tout à fait analogue à celui de la conscience de la règle. Il s'agit du phénomène des sphères de signification. C'est dans la troisième partie consacrée au champ symbolique et au terme dénominatif que vous trouvez cette description. La question qui est posée ici par Bühler rappelle clairement les préoccupations de sa jeunesse. Qu'est-ce que l'écouteur et l'auditeur ont présent comme visée ou comme représentation, Vorstellung, lorsqu'ils utilisent les signes linguistiques comme cheval? Qu'est-ce qui est ressenti dans l'emploi pratique des mots? Un stade intermédiaire, répond Bühler. Qu'est-ce que ce stade intermédiaire? Ce stade intermédiaire est ce stade bien connu par tous les locuteurs de n'importe quelle langue dans laquelle un mot que nous prononçons n'éveille plus en nous l'expérience vivante de son étymon. Dans ce stade, l'étymon n'est plus vivant, il est estompé ou mort. Et Bühler poursuit. Sur les 90 millions de locuteurs qui pratiquent aujourd'hui l'allemand, il n'y en a peut-être pas un sur 10 000 qui sache ce qu'ont jadis désigné étymologiquement des termes comme Pferd, cheval, cou, vache, schaf, mouton. Et pour celui qui le sait, cela reste un savoir froid, qui ne ressent aucunement dans quelque emploi pratique de mots que ce soit. Mais qu'est-ce qui est présent au locuteur quand il prononce le mot cheval, si ce n'est pas l'étymon qui permettra de saisir ce qui, dans la réalité, est représenté par le mot? Dans sa réponse, Bühler fait explicitement référence aux résultats des recherches en psychologie de la pensée et considère que L'un de leurs résultats généraux reste valide. Et cet résultat est que la signification intentionnelle doit être circonscrite et décrite indépendamment de la représentation de la Vorstellung. Ce qui est signifié intentionnellement en utilisant le mot n'est pas la représentation, ce n'est pas l'image de la chose dessinée. En revanche, ce qui est visé dans le cas particulier par le locuteur pendant qu'il utilise un mot est séparé des autres choses visées par sa sphère. En se référant aux recherches notamment de sa femme Charlotte, Bühler affirme que la chose visée par le locuteur qui utilise le mot cheval est séparée des autres choses par sa sphère. Je cite, le cheval, pour en rester à cet exemple, relève en gros dans mon stock de connaissances de la sphère animaux, ou animaux domestiques, ou animaux utilitaires. Et de telles mises en ordre par sphère se font encore sentir dans le vécu quand toute réalisation concrète d'image de choses est absente. Les sphères des significations ont apparemment le même statut et portent les mêmes caractéristiques que la conscience de la règle. Elles sont attestées comme ce qui est vécu, ressenti, existant, en tant que fait phénoménal, dans la visée de monde à l'aide des mots. Et elles sont discutées comme les organisateurs, les moyens d'organisation, de mise en ordre, ce qui les rapproche également des règles. Bühler utilise encore un autre terme pour conceptualiser ce processus de la signification par le mot, qui est réalisé à travers les sphères de signification. Il s'agit du terme de savoir. Bühler affirme qu'on constate chez le sujet en train de signifier à travers le mot l'existence d'une relation à un fragment ou à un élément du monde représenté dans son savoir latent. Cette référence au concept de savoir semble banale. Mais si on prend en compte que c'est le concept de savoir avec lequel Bühler tente en 1907 de résumer ses recherches sur la pensée, il devient intéressant de s'y arrêter un moment. J'arrive donc à la troisième partie de mon exposé, le concept de savoir chez Bühler. À la fin de la première partie de son habilitation, Bühler résume ses réflexions sur les constituants vécus de la pensée en affirmant que sur le plan de leur fonctionnement, on devrait les identifier au savoir, plus précisément au savoir actuel, au savoir présent. Il introduit un concept qui, à ma connaissance, n'a été jamais vraiment discuté ultérieurement dans la réception de son œuvre. Il souligne dans son habilitation que ce savoir dont il parle ne devrait pas être compris comme une disposition. Il refuse d'emblée une conception dispositionnelle de ce savoir. Il remarque au sens courant, normalement, le savoir est souvent identifié avec ce qui se trouve stocké dans la mémoire. On lui accorde généralement une présence virtuelle d'un esprit qui lui permettrait de prédéterminer le fonctionnement chaque fois concret de la pensée. Mais le savoir avec lequel Bühler identifie sur le plan de fonctionnement aussi bien la conscience de la règle que les sphères de la signification n'est pas une disposition. C'est la raison pour laquelle il utilise les adjectifs actuels et présents. Il veut marquer cette différence. J'aimerais apporter un autre exemple qui vient également de la Sprachtheorie pour démontrer comment ce concept de savoir présent, de savoir actuel, pourrait permettre de clarifier le concept de représentation, le concept de Darstellung, concept clé de la Sprachtheorie. Cette clarification qui a été annoncée comme objectif de mon exposé. Cet exemple vient du domaine des systèmes de représentation non linguistique. D'ailleurs, vous trouverez dans la Sprachtheorie beaucoup d'exemples issus de ces domaines, peut-être parce qu'ils ont l'avantage d'être très parlants, comme celui qui discute la meilleure manière de représenter un polygone. Vous trouvez cet exemple sous le point 9 de la handout. Bühler pose la question, comment doit-on associer des lettres aux angles d'un polygone ? Et il répond, cela peut se faire de manière totalement arbitraire, en associant n'importe quelle lettre à un angle de polygone, comme c'est marqué sur la figure 1. Mais si on veut véritablement transmettre linguistiquement quelque chose à quelqu'un sur la chose et ses propriétés, par exemple sur les relations géométriques dans la figure, si on veut vraiment darstellen, si on veut vraiment représenter le polygone, on doit, selon Bühler, procéder autrement. Il faut trouver une représentation, une darstellung, à l'arbitraire limité, comme dans la figure 2 ci-dessus. Je cite, c'est la citation 9, « La première solution représente une coordination aussi arbitraire que possible, dépourvue de relations de figuration, et elle est inappropriée. La seconde solution illustre une coordination à l'arbitraire limitée, pourvue d'une ébauche de relations de figuration, et elle est à ce titre plus efficace. Dans le second cas, pour distribuer les noms, on suit la série associative des lettres de l'alphabet, qui est bien connue de tous les intéressés. On figure la suite des angles en la calquant sur la suite associative des lettres, et cette figuration, cette abbildung, apporte avec elle d'extraordinaires avantages pour la discussion. En quoi consistent ces avantages desquels Bühler parle? Dans la deuxième solution, la suite utilisée, l'ordre des lettres d'alphabet, fait que l'application opérée n'est pas arbitraire, mais produit une fidélité relationnelle. Cette fidélité relationnelle est contenue dans le principe, ou autrement dit dans la convention d'application, qui, elle, prescrit l'ordre dans lequel les lettres de l'alphabet sont enchaînées. Ce que nous appelons la fidélité relationnelle d'une représentation, dit Bühler, est ce que les physiciens et les techniciens aujourd'hui comptent aussi naturellement parmi les Abbildungen, figurations. Bühler utilise ici le concept de Abbildungen, concept fortement condamné ou autrement dit mis à l'index dans les sciences de l'esprit de son temps. Le terme de Abbildung signifie en allemand avant tout reproduction sous la forme d'un reflet ou d'une copie de la chose et a été fortement attaqué aussi bien dans la philosophie de l'esprit de Deltay que dans la philosophie des formes symboliques de Cassira, pour ne nommer que ces deux exemples. Il n'est donc pas étonnant que Bühler se réfère ici aux physiciens et mathématiciens dans les écrits desquels le concept de Abbildung a gardé une place importante. Il existe donc une espèce de fidélité entre la représentation par application des lettres d'alphabet sur le polygone 2 et ce qui est représenté. Cette fidélité consiste dans le fait qu'on utilise des moyens qui, par leur fonctionnement comme facteur organisateur, représentent le polygone. Bühler les désigne de nouveau comme des instruments de mise en ordre, des organisateurs ou encore des outils d'ordonnancement et d'application. La chaîne alphabétique organise la représentation de polygones de la même manière que, par exemple, l'axe graphique de temps organise la représentation de la fièvre sur une courbe de la température d'un malade. La représentation, la Darstellung, est médiatisée par un certain ordre inhérent à la chaîne alphabétique ou par une certaine organisation successive inhérente à l'axe de temps. Et ces médiateurs font que ce qui est représenté est en même temps connu et en même temps su. C'est ici que le concept de savoir est de nouveau évoqué par Bühler. Ce savoir est indiqué dans la formule suivante, « Je dis que » et l'auditeur sait que. Appliqué à notre polygone, cela signifie « Je dis la ligne CE » et l'auditeur sait qu'un angle a été sauté. « Je dis AD ou BE » et l'auditeur construit sur la figure imaginaire une diagonale principale, etc. Nous y retrouvons un savoir sur la chose produit chez l'auditeur par la représentation. Ou autrement dit, comme l'exemple de polygone le montre, la représentation permet de savoir immédiatement quelque chose concernant la chose. Ainsi, si je regarde la courbe de température de malade, je sais immédiatement si la fièvre a augmenté ou non au cours de la journée. La tournure « je dis que », alors il sait que, reflète bien ce lien interne entre Darstellung et savoir. Un savoir qui est actuel, présent, dans le sens où il est produit immédiatement à partir de la représentation. La représentation permet que l'auditeur produise en même temps un savoir sur le monde, un savoir du monde qui n'est justement pas exprimé par le système de représentation, mais est produit à partir de lui. Ce savoir doit son existence au système de représentation. La chaîne alphabétique organise la représentation du polygone et l'axe graphique de temps, celle de la fièvre, mais justement sans qu'il soit exprimé par ce système. Cette discussion de polygone ne montre pas seulement le lien que Bühler tisse dans la Sprachtheorie entre le concept de savoir actuel et celui de la représentation. Elle permet aussi de mieux saisir ce que Bühler comprend par la fonction représentationnelle du langage, puisque ce que vient d'être monté quant au polygone est aussi valable pour le fonctionnement des signes déitiques et dénominatifs, et est clairement résumé dans la seule et unique définition de langage qu'on trouvera dans la Sprachtheorie. Cette seule et unique définition de langage est formulée par Bühler tout au début de la partie 3 de la Sprachtheorie, la partie qui est consacrée au champ symbolique. Et elle est formulée comme suit. L'instrument représentationnel langagière fait partir des moyens de représentation indirecte. C'est un instrument intermédiaire, mediales Gerät, dans lequel des médiateurs déterminés interviennent comme facteurs organisateurs. On trouve dans cette définition, c'est sur le point 10, on trouve dans cette définition l'idée des médiateurs qui interviennent comme facteurs organisateurs dans la représentation réalisée par le langage ou par d'autres systèmes de représentation. Des médiateurs dont nous avons pris déjà connaissance en discutant les sphères de signification et la chaîne alphabétique. D'autres médiateurs sont examinés par Bühler concernant le champ déitique par rapport auquel il parle des auxiliaires sensibles. Quant au champ symbolique, il atteste l'existence des auxiliaires contextuels. Mais c'est un autre terme se trouvant dans cette même définition sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Bühler identifie le langage avec un mediales Gerät. Nous avons traduit ce terme allemand par instrument intermédiaire. En allemand, médial signifie se trouvant au milieu. Mais si on utilise cet adjectif dans le domaine de la parapsychologie, il veut dire aussi concernant un médium spirituel. Dans la présentation du livre, je développe une interprétation qui prend ce terme dans sa connotation spirituelle. Je proposais de prendre au sérieux la comparaison du langage avec un médium et j'ai mis l'accent sur une des caractéristiques primordiales d'un médium, à savoir sa capacité de rendre présent grâce à ses actions, un monde qui est au-delà de notre monde immédiatement accessible, au monde auquel nous n'avons pas accès immédiatement, comme c'est par exemple le cas du monde des défunts. Et j'ai conclu ma mise en parallèle entre les médiums et le langage en disant que dans le cas de la représentation par le langage, il s'agit donc d'un monde pensé et perçu qui n'existerait pas sans le langage. Dans la préface du livre, Jacques Bouvresse a réagi à mon interprétation en disant, je cite, « Mais un monde qui n'existerait pas sans le langage, en ce sens-là n'est pas un monde que l'on est obligé de se représenter comme étant une création plus ou moins arbitraire de langage. Dès que nous utilisons celui-ci, nous sommes contraints de percevoir des pensées au monde, mais cela ne signifie pas que le monde en question soit un produit de langage. » Oui, je suis d'accord avec cette remarque, et elle m'a poussée à revenir sur mon interprétation pour la affiner et pour la compléter par un élément. Un élément qui m'a apparu comme très important après que je me suis rendu compte du rôle que le concept de savoir actuel joue dans les réflexions de Bühler. Mais il y a également un autre facteur qui m'a incité à retravailler mon interprétation. Ce fut la relecture de certains collègues et contemporains de Bühler. En relisant les écrits du psychologue russe Lev Vygotsky et du psychopathologue allemand Kurt Goldstein, j'ai découvert que les deux travaillent avec un concept d'instrument qui me semble extrêmement intéressant pour mon propos, puisque Bühler définit le langage dans la définition que je viens de citer aussi comme un instrument. Ainsi, dans le texte de Vygotsky, j'ai trouvé le terme d'instrument médiatisant, qui me semble bien refléter ce que Bühler veut dire avec le terme « mediales Gerät ». Et chez Kurt Goldstein est développé le concept de détour, qui parle également d'un instrument, d'un type d'instrument bien spécifique. Je n'ai malheureusement pas de temps pour vous montrer en détail leur conception. Ça serait un joli objet pour un autre exposé qui pourrait être intitulé « L'idée de l'instrument médiatisant dans la psychologie au début du XXe siècle ». Je vais rapidement illustrer quand même l'idée centrale qui m'a tant séduite en me référant à Kurt Goldstein, psychopathologue allemand bien connu au public francophone à travers les lectures que Merleau-Ponty a fait de lui. Goldstein introduit dans ses recherches sur l'aphasie les termes de détour pour conceptualiser une technique que le malade de l'aphasie, qui ne trouve plus un certain mot, utilise pour y arriver quand même. Goldstein parle des détours puisque la procédure, l'instrument utilisé par le malade, lui permet d'accéder à la solution souhaitée par une voie tout à fait différente par rapport aux sujets normaux. Je cite, vous trouvez la citation sur le point 11, « Un malade, par exemple, ne peut plus trouver le mot « myosotis » ou le mot « bleu », mais l'objet éveille en lui le souvenir du dicton. Blau blüht ein Blümelein, es heißt vergiss mein nicht. Il a une fleurette bleue qui s'appelle le myosotis. Et aussitôt, il dit myosotis et bleu. Ces mots, il ne les a pas employés à la manière significative usuelle, ils se sont présentés à lui comme un savoir verbal extérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Le malade essaie de faire venir le mot et pour cela, il utilise un instrument. Dans le cas cité, le dicton, qui le fait d'un coup surgir, qui fait qu'un savoir se présente à lui. Voici une autre preuve pour l'existence de ce savoir présent actuel de quel parle Buller. Chez Merleau-Ponty, on trouve également une description de tel détour, mais cette fois-ci, elle ne concerne pas les malades de l'aphasie, mais la vie quotidienne. Je vais rapidement citer Merleau-Ponty parce que c'est très parlant. Vous trouvez sur le point 12, je m'étends dans mon lit, sur le côté gauche, les genoux repliés. Je ferme les yeux, je respire lentement. J'éloigne de moi mes projets. Mais le pouvoir de ma volonté ou de ma conscience s'arrête là. Comme les fidèles dans les mystères dionysiaques invoquent les dieux en mimant les scènes de sa vie. J'appelle la visitation de sommeil en imitant le souffle de demeure et sa posture. Il y a un moment où le sommeil vient. Il se pose sur cette imitation de lui-même que je lui proposais. Je réussis à devenir ce que je feignais d'être. Cette masse sans regard et presque sans pensée clouée en un point de l'espace et qui n'est plus au monde que par la vigilance anonyme des sens. Qu'est-ce que ces exemples apportent à ma discussion du langage comme médium? Ils mettent l'accent sur une autre caractéristique bien importante du médium. Les médiums dans la science spirituelle utilisent toujours une certaine technique, une procédure, un instrument pour rendre présent, pour faire surgir ce monde au-delà. Les dictons et l'imitation de sommeil sont de tels instruments. Ils illustrent bien le fonctionnement d'un médium. Les dictons font venir le mot perdu, l'imitation de sommeil, le sommeil recherché. Le sommeil doit son existence à son imitation qui le fait venir, qui le fait être, et dans ce sens, l'imitation le représente. D'ailleurs, la représentation de polygone dans la figure 2 fonctionnait de la même manière. Elle a fait surgir un savoir que nous pouvons avoir du monde, et dans ce sens, elle a été une représentation de polygone. Le médium possède donc une force, la force de faire venir le monde des défunts dans la science spirituelle, en mots dans le cas de malade d'aphasie, le sommeil dans l'exemple de Merleau-Ponty, ou encore un savoir du monde dans le cas du polygone. C'est de cette force dont parle le titre de mon exposé. Cette force représentationnelle du langage, qui est exprimée par le terme de médium, se laisse aussi attester dans le champ symbolique, même si cela semble au premier regard plutôt improbable. Dans un des textes préparatoires sur le langage, Buller discute la force représentationnelle de la phrase. Dans un texte préparatoire sur le langage, Buller discute la force représentationnelle de la phrase suivante. Les Alpes se lèvent abruptement à partir de la plaine de Pau jusqu'à une hauteur considérable, tandis qu'elles descendent en pente douce au nord. Pour Buller, la représentation, la darstellung dans cette phrase, n'y est pas réalisée par une image mentale, qui serait déclenché chez le lecteur pendant qu'il lit la phrase. Bien au contraire, je cite, « Cette performance toute différente de la phrase est, comme je le crois, très clairement exprimée par le mot « représentation »,« Darstellung », car la phrase produit les mêmes effets qui, pour certains états de choses, peuvent être produits par des images, des cartes géographiques, des courbes, des formules mathématiques et chimiques, etc. À savoir que le connaisseur peut prélever à partir de l'état des choses. Bühler affirme donc ici que la phrase ne représente pas la chose dont elle parle, mais elle fait que le lecteur sait quelque chose d'elle. Peut-on savoir quelque chose ? Comme c'était le cas pour la représentation du polygone dans la figure 2. J'ai dit que, il sait que. Ou comme le dit Bühler encore avec d'autres mots, j'entends un mot, j'ai une impression sensuelle de ce mot, et en même temps, il m'est donné un sens. Non pas parce que je me représente quelque chose, mais parce que un savoir m'est présent quand j'entends le mot. Dans ce sens, le langage représente. Il fait venir, rend présent le savoir que nous avons du monde en tant que savoir du monde et non pas en tant que savoir représenté par le langage, pas en tant que savoir stocké dans la mémoire et pas non plus en tant que représentation mentale du monde. Cette conception de la force représentationnelle du langage se reflète dans une des affirmations clés de la sprachtheorie qui contredit en bloc une grande partie du tournant linguistique du XXe siècle. Je cite, c'est la citation 15. Peut-être sous-estimons-nous le fait que chaque représentation linguistique d'un état de choses est fondamentalement ouverte et requiert d'être complétée en puissant dans un savoir à propos de cet état de choses. Ou ce qui vient au même, tout savoir saisi linguistiquement reçoit peut-être un complément d'une source qui, pour ne pas se déverser dans le canal du système des symboles linguistiques, n'en produit pas moins un savoir authentique. Cette source de savoir ne peut donc pas être d'autre chose que le monde, pas le monde étant une création plus ou moins arbitraire de langage, mais le monde dont le langage fait venir un savoir et dans ce sens il le représente. Ce savoir actuel ou authentique, Bühler le caractérise dans son habilitation également comme le pouvoir de savoir à propos de quelque chose. Ich kann wissen um etwas. On sait que dans les recherches philosophiques de Wittgenstein, le terme de savoir joue un rôle important. Et il est intéressant de constater que Wittgenstein fait aussi recours au concept très allemand de können pour définir le concept de savoir. Je cite Wittgenstein, la grammaire du mot savoir est à l'évidence étroitement apparentée à la grammaire du mot pouvoir, être capable de, mais aussi à celle du mot comprendre, maîtriser une technique. J'ai essayé de montrer que pour Bühler, le langage fait partie de ces instruments médiatisants qui nous permettent de pouvoir penser et de pouvoir savoir et pas seulement avoir une pensée et avoir un savoir, ce qui contredit clairement l'idée de la pensée comme un état psychique ou un état neurophysiologique. Une des conséquences qu'on pourrait tirer des réflexions bühlériennes sur le langage concerne les phénomènes psychiques, donc son propre domaine, celui de la psychologie. Si on suit les réflexions développées dans la sprachtheorie, la pensée, la perception, sont à considérer comme des pratiques, des réalisations, des accomplissements et non pas comme des états. Les phénomènes psychiques apparaissent comme des pratiques guidées par ce qui a cette force représentationnelle, comme le langage ou les autres instruments médiatisants. Ces instruments sont souvent imposés par la culture, par les coutumes, ils sont appris, inculqués, on est dressé à les utiliser et dans ce sens, ils ne sont pas arbitraires, comme l'ordre des lettres de l'alphabet. On arriverait donc à une conclusion qui me semble extrêmement intéressante pour les débats actuels, notamment en philosophie de l'esprit. Bühler apporte d'une certaine manière la preuve que dans les processus psychiques, l'existence d'une coutume, d'une technique, leur est totalement nécessaire. Le bon connaisseur de Wittgenstein voit bien ce que je suis en train de faire. Je reformule un paragraphe de recherche philosophique où Wittgenstein s'est exclamé « Ce qu'il y a de surprenant dans l'intention, dans le processus psychique, c'est que l'existence d'une coutume, d'une technique, ne leur est pas nécessaire. » Cependant, je ne suis pas sûre que Wittgenstein soit allé plus loin que contester cette idée, peut-être parce que le domaine du psychique ne l'intéressait guère en fin de compte. En revanche, Bühler s'est intéressé au langage pour continuer ce qu'il avait commencé dans son habilitation. Chercher une réponse à la question « Qu'est-ce que la pensée en tant que phénomène psychique ?» Et il apporte, par son détour vers une sprachtheorie, une contribution très précieuse à ce débat autour de la nature de psychique. Il montre que les phénomènes psychiques sont toujours caractérisés par la maîtrise d'une technique, d'un instrument médiatisant. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'instruments représentationnels comme le langage. Mais attention, après ma démonstration, la représentation ne devrait plus être comprise comme une fonction de langage, mais comme une activité, un processus ou un vécu en lui-même, ce qui donne au langage une place véritable et juste dans le domaine du psychique.